Nous allons faire plusieurs lectures ce matin. Je voudrais que vous les notiez peut-être. Nous allons faire quatre lectures sur le sujet de la porte. Premièrement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, nous allons voir ce qu'il s'est passé le jour où Dieu a envoyé le déluge. Juste quelques versets. Genèse chapitre 7, on va lire le verset 5. Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Verset 15. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et retenez bien la phrase qui suit. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. La porte, c'est le Seigneur qui l'a fermée. Noé a fait toute l'arche. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui a fermé la porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus indique ce qu'il est, un aspect de son ministère. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, il fait allusion à Satan pour ceux qui sont en train de découvrir l'évangile, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Apocalypse s'il vous plaît. Apocalypse 3 verset 20. C'est la conclusion de la dernière lettre à laquelle le Seigneur écrit. Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On a lu au verset 20, si quelqu'un entend ma voix, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les oreilles physiques. Vous entendez tous ma voix. C'est une chose d'entendre une parole, c'est une chose d'entendre avec les oreilles de son cœur. C'est bien ça que le Seigneur veut dire. Une autre lecture dans Matthieu, au chapitre 7, au verset 13. Le Seigneur nous indique comment est cette porte. C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le texte qui va surtout nous servir de base ce matin est une prophétie dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Une prophétie qu'on pourrait taxer de terrifiante. C'est pas des textes qu'on peut prendre à la légère, c'est impossible. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle, le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Il prophétise ce qui va se passer quand la porte va se fermer. Écoutez, il y a des adolescents, des enfants, écoutez bien les ados. Vous assistez parfois, vous ne comprenez pas forcément la prédication, mais écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire peut être compris par tous les enfants de l'Église. Écoutez, c'est peut-être le jour où Dieu veut sauver votre âme. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, « Mais nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Amen. Ce sont des textes qui vont nous permettre de comprendre comment ça se passe lorsqu'on n'est pas prêt. La semaine dernière, on a vu ce qu'il fallait faire pour être prêt. Ce matin, on va voir le caractère de ceux qui ne sont pas prêts. Mais d'abord, je voudrais lire deux textes avec vous, pour que vous compreniez bien ce qu'est un pasteur. Souvent, on me dit, mais c'est quoi un pasteur ? Est-ce que c'est pareil qu'un évangéliste ? Vous savez, il y a les dons hommes dans la Bible. Dans Éphésiens chapitre 5, il y a les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, etc. Le pasteur, il veille sur les âmes. Regardez avec moi dans Hébreux 13. C'est important. Des personnes se sont braquées par rapport à des prédications parce qu'ils n'ont pas compris qu'un pasteur, il a la responsabilité d'édifier l'Église, de nourrir le troupeau. Des fois, on entend des gens dire « Mais je ne sais pas quel ministère j'ai reçu, je ne sais pas si je suis pasteur, si je suis évangéliste. » Écoutez, moi je sais ce que je suis pasteur. Un évangéliste, c'est un homme qui est chargé d'aller chercher la brebis perdue et il l'amène dans le troupeau. Vous me suivez ? C'est ça l'évangélisation. Il va chercher, c'est ceux qui évangélisent, et il en faut, et il en faudrait davantage. Des hommes qui vont chercher les brebis perdues et qui l'amènent dans le troupeau. Mais une fois que la brebis est dans le troupeau, il faut la nourrir. Il faut veiller. Et regardez dans Hébreux chapitre 13, c'est sérieux. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent plus obéir. C'est quelque chose de grave. Regardez Hébreux chapitre 13, et ce n'est pas une question d'obéir à un homme, c'est une question d'obéir à la parole de Dieu. Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Et ayez pour eux de la déférence, car, regardez bien, ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Vous le relisez avec moi ? Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel Dieu veut que nous évoluions dans l'Église, dans cette obéissance, dans cette déférence, c'est important. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dans le prophète Ézéchiel, il faut qu'on aille voir. Quelques instants, c'est une introduction, mais il faut y aller. Dans le prophète Ézéchiel, Dieu fait des reproches sévères aux pasteurs. Les pasteurs ne sont pas intéressés par le salut des âmes, ils sont intéressés par toute autre chose. Et Dieu leur fait des reproches. Regardez Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, il dit ceci. C'est des paroles sévères que Dieu pourrait attribuer aujourd'hui aux pasteurs qui ne apportent pas la parole de Dieu, la nourriture solide et utile pour qu'on puisse aider les croyants à veiller sur leur âme. Ézéchiel 34, on peut lire du verset 1er au verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez tué avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez pas fait paître les brebis. Regardez bien. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Que c'est triste. Ézéchiel 22, c'est un petit peu pareil, dans un cadre là où il cherche un homme qui va faire l'inverse de ce qui est écrit. Ézéchiel 22, c'est un texte où Dieu dit qu'il cherche des hommes qui vont relever le défi. Mais regardez, on va lire le verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi. Ils profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbat, et je suis profané au milieu d'eux. Le verset 27 dit, ses chefs sont comme dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent les âmes. Et bien voilà le reproche que le Seigneur pourrait faire aujourd'hui dans bien des endroits. Si nous n'apportons pas la pensée de Dieu, nous perdrons des âmes à la place d'en gagner. Je pense que vous voulez tous voir une église en bonne santé et qui jusqu'à la fin va pouvoir travailler. Car la prophétie l'a dit, il va venir un jour, c'est écrit, où nul ne pourra travailler. J'en profite pour dire que les prophéties apportées sont tout le temps des paroles de la Bible qui sont rapportées. Vous n'avez pas fortifié. Ce matin, je ressens dans mon cœur ce besoin de vous aider à ce que vous appreniez à être fortifié, à vous laisser fortifier, à vous laisser conduire. J'espère que vous avez gardé la page de Luc 13, où nous voyons le Seigneur Jésus prononcer des paroles terribles. Vous savez que la parole, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, n'a été prononcée que par Jésus. Est-ce que vous le saviez? Il n'y a que Jésus qui a utilisé cette parole, 7 fois de suite, dans 7 contextes différents, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une parole terrible, vous ne croyez pas? C'est une parole qui doit nous faire réfléchir. Le Seigneur a volontairement utilisé une expression terrible pour nous faire prendre conscience que ce n'est pas de l'exagération, que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux que de se préparer à rencontrer Dieu. Il y a des paroles, des prophéties terribles quand Jésus dit au verset 24, « Beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. » J'ai regardé dans le dictionnaire hier, le Robert, « Beaucoup, définition, marque d'une façon indéterminée un grand nombre, une grande quantité. » Voilà ce que veut dire l'adverbe « beaucoup », un grand nombre, une grande quantité. J'aurais préféré que le Seigneur dise « il y en a quelques-uns qui vont pas être prêts ». Jésus dit qu'une grande quantité d'hommes et de croyants, il ne parle pas des inconvertis, les inconvertis ne sont pas prêts, c'est clair. Il parle de ces croyants qui n'auront eu qu'une piété de façade parce qu'ils n'auront pas été soucieux de s'appliquer à veiller sur leur âme. Je dois veiller sur votre âme, mais vous devez également veiller, c'est écrit, veille sur ton âme, veille sur toi-même, etc. C'est vrai que dans les signes sur la fin des temps, dans les prophéties de Jésus, il dit à cause de l'iniquité, vous connaissez la suite, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quelque chose de terrible que d'entendre ces paroles. On sait très bien que Jésus n'a pas exagéré pour dire, bon, je vais leur faire peur. Vous savez, comme des fois on est capable, nous, d'exagérer un peu les choses pour faire peur à quelqu'un. Mais il n'a pas exagéré. Vous voyez Jésus en train d'exagérer? Il a dit, ce qui se passera, c'est qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus insiste. Souvent, on l'a vu dimanche dernier, je ne vais pas y revenir, mais il n'arrête pas. Tenez-vous prêts, veillez. Ce que je dis, je le dis à tous. Je vous ai tout annoncé d'avance. Il y a des gens qui disent, oui, j'aimerais que Dieu me parle, j'aimerais que Dieu me dise. Mais écoutez, il a dit le Seigneur, je vous ai tout annoncé d'avance. Ce que nous avons besoin de le savoir, on l'a. Et ça devrait nous suffire. Il y a donc des gens qui vont se retrouver dehors. Lorsque le maître de la maison, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Le maître de la maison, de l'Église, est-il le votre maître? C'est une affaire, si ce n'était pas solennel, si ce n'était pas quelque chose d'éternel, ça devrait nous faire sourire. Mais hélas, on ne peut pas en rire. Le Seigneur, depuis 2000 ans, invite les hommes à entrer. Bien sûr, beaucoup rentrent, mais beaucoup ne rentrent pas. Le Seigneur invite les hommes à rentrer, et quand la porte sera fermée, les gens ils voudront rentrer. On comprend pourquoi aussi. Parce qu'ils vont certainement vite comprendre qu'après l'enlèvement de l'Église, ça ne va pas être facile. Vous le savez. Et ce que vous voyez n'est rien à côté de ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église, parce que malgré tout ce qui se passe, il y a la grâce de Dieu sur la terre. Et Dieu veille sur l'Église. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. C'est pas parce que je suis à l'Église que je garde la parole. Mais quelqu'un qui a à cœur les choses de Dieu, il les garde, il les sert, il vit avec. Il en est pétri comme un amoureux qui fait que penser à sa bien-aimée, quoi que ce soit qu'il fasse.
Un chrétien qui est pris, il est là, il est attaché, il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Oh, bien sûr qu'il y a des petits bugs de temps en temps, mais il aime Dieu. Et là, nous voyons cette parole, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Noé a fait ce qu'il avait à faire, et l'Église doit faire ce qu'elle est appelée à faire, à évangéliser. Et je voudrais que nous nous appliquions, tant que la porte est ouverte, à évangéliser. Noé, chaque fois qu'il parlait, il est appelé le prédicateur de la justice. Et chaque fois qu'il parlait, eh bien, il expliquait que le déluge allait venir. Il y en a qui disent, mais Noé, Dieu, c'est un Dieu d'amour, tu débloques Noé. Ton bateau sur la montagne, c'est stupide. Je ne sais pas si les gens après sont venus frapper. Est-ce que c'est possible qu'il y en a qui est... C'est possible, c'est pas écrit. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû dire, écoute Noé, ouvre, fais quelque chose, envoie-nous quelque chose. C'était trop tard. Quand il a commencé à pleuvoir, pouvoir, parce que quand Dieu a fermé la porte, il n'a plus que 7 jours après. Et pendant 7 jours, je pense qu'on devait bien se marrer. C'est pas vrai? Vous croyez pas? Vous savez, mes frères et sœurs, je vais terminer avec ça tout à l'heure. La porte, elle est ouverte. Saisissons l'occasion pour ceux qui sont dehors, ceux qui en sont ressortis. C'est écrit, le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte. N'est-ce pas solennel? Les croyants du monde entier devraient entendre cette prophétie. Parce que c'est une prophétie qui concerne l'enlèvement de l'Église. C'est une prophétie qui concerne la fin des temps. Et s'il y a bien des chrétiens qui sont concernés par cette prophétie, c'est bien les chrétiens de la fin des temps. Vous allez me dire, les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient concernés. Oui, mais moins quand même. Malgré le fait qu'ils devaient aussi veiller sur leur âme. Alors, je vous pose la question. C'est ça veiller sur l'âme? C'est ça essayer de fortifier, guérir quelqu'un? Il faut prendre un médicament. Il faut que vous soyez capable tout à l'heure, lorsque vous allez vous lever pour prendre le pain et le vin, de pouvoir dire, mais oui, je suis du bon côté de la porte. Je suis à l'intérieur de l'arche. Il faut que vous puissiez en être convaincu. Dire, je ne sais pas. Vous savez, des fois, on demande aux gens, est-ce que vous êtes sauvés? J'en sais rien. Si Dieu veut. Mais il y a Dieu, je pense qu'il voulait nous sauver. Vu le prix qu'il a payé, je pense qu'il voulait nous sauver, le Seigneur. Et quand on en arrive à entendre des trucs pareils, oui, si Dieu veut. Mes frères et sœurs, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Hein. Inconsciemment. Dans Ézéchiel, ils ont profané. Ils ont profané mon sanctuaire. Ils ont méprisé. C'est ça que ça veut dire, on méprise. De quel côté sommes-nous? Quand Jésus, dans les prophéties de Matthieu, dit que celui qui lit fasse attention. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de lire la parole de Dieu. Dieu nous a donné un rendez-vous. C'est sérieux. On a un rendez-vous avec le Seigneur. Il est là, par le Saint-Esprit. Et il voit si on lit en faisant attention ou si on ne fait pas attention. Il le voit, il le sait. Il n'y a que lui qui voit dans votre cœur. Moi, je ne sais pas ce que vous pouvez être là. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et puis, ça ne me regarde pas. Que celui qui lit fasse attention. Ça fait longtemps que Dieu nous dit, venez à moi, venez à moi. Venez à moi, il n'arrête pas, tout est prêt, venez à moi. Vous avez lu la Bible et vous voyez que le Seigneur n'a de cesse que d'inviter les gens. En tous les cas, de son côté, tout est prêt. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes comme moi. Vous êtes peiné lorsque vous entendez de la bouche du Seigneur Jésus qui dit « Venez, venez » devoir dire un jour « Retirez-vous de moi ». C'est pas vrai? Ça vous fait pas peur, cette parole? « Retirez-vous de moi ». Et il ajoute « Vous qui commettez l'iniquité ». Il y a un problème. Oui, on peut être chrétien tout en commettant le péché. Ça paraît complètement paradoxal, mais c'est une évidence. Et le problème, c'est qu'on ne le sait pas souvent. On ne s'en rend pas compte tellement l'ennemi nous a volé notre discernement. C'est un voleur, ne l'oubliez pas. Non, vous n'avez pas envie d'entendre, je ne vous ai jamais connu comme aux vierges folles, qui attendaient le retour du maître. Et pourtant, malgré le fait qu'elle l'attendait, elle n'était pas prête. Vous voyez comme ça paraît paradoxal. D'un côté, je l'attends, et en même temps, je ne suis pas prêt. Parce que je n'ai pas la piété nécessaire, la réserve de piété nécessaire, qui me permet d'avoir suffisamment d'éclairage et de lumière autour de moi. Alors, nous sommes tous malheureux, tout en étant heureux d'être sauvés. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a le côté pile et le côté face. Hein, il y a la joie du salut, le bonheur de connaître Dieu, et de l'autre côté, il y a la tristesse de voir tant d'hommes et de femmes perdus, ou tant d'hommes et de femmes qui se reperdent. Ils sont entrés dans le royaume, ils sont ressortis. Ça ne vous brise pas le cœur? Combien de Toulousains sont entrés dans le royaume de Dieu et en sont ressortis? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr qu'il y a des explications bibliques, on pourrait le voir, c'est quand même intéressant de voir que les soucis de la vie, Jésus parle, à cause des soucis. Ils ont tellement été étouffés par les soucis qu'ils en ont abandonné le Seigneur, ils ont abandonné la foi, à cause des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie ont repris le dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un homme rentre dans le royaume et puis il en ressorte. La Bible parle de ceux qui n'ont pas persévéré. Il y a des textes dans les Hébreux. Ils se sont retirés, ils ont abandonné. N'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance. Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas fait attention. Il y a des pièges dans le monde. Est-ce que vous savez que le diable, il a eu toute une armada de serviteurs et tout un listing de ruses et de méthodes pour vous piéger? Est-ce que vous le savez? Oh, il y a des pièges, on ne se rend même pas compte que ce sont des pièges. Mais ce sont des pièges. Et il y a des choses qui paraissent saines. On m'a parlé cette semaine de personnes qui me posaient des questions par rapport. Oui, il y a des pièges. Il y a des pièges, c'est flagrant. Il y a des péchés grossiers, c'est flagrant. Il n'est même pas la peine de les énumérer. Mais il y a des occupations saines qui, lorsqu'elles nous prennent le temps que l'on devrait passer devant Dieu pour que notre réservoir d'huile se remplisse, font qu'on ne réalise pas que c'est un piège. Il peut y avoir des choses très saines qui deviennent un piège. Un ado, un jeune qui passe 3 ou 4 heures devant son ordi et qui n'est pas capable de passer demi-heure dans le Seigneur. Parce que quand même, moi je crois que quand on se tient devant le Seigneur, la lampe se remplit. Oui ou non? Quand même, ce n'est pas un moyen d'être rempli. Quand un homme écoute la parole de Dieu, quand un homme lit, quand un homme prie, il ne s'en rend pas compte, mais lui il revient. Et il dit, mais je n'ai pas le temps. Eh oui, 5 heures d'ordi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas en passer une heure devant Dieu. Ça vous montre, mais ça, il faut être sérieux. Ça vous montre ce que vous aimez le plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je vous dis, je fais 5 heures de muscu par jour. C'est une image.
C'est une image.
Si je vous dis, vous allez me dire, ça ne se voit pas beaucoup. Bon, mais à part ça, si je vous dis, je fais 5 heures de musculation par jour, et que je vous dise, voilà, mais à cause de ça, je n'ai pas 20 minutes pour me tenir devant Dieu, qu'est-ce que vous allez me dire? Faites un peu moins de muscu, vu le résultat, mais faites un peu plus d'exercice pieux. C'est écrit « Exerce-toi la piété ». Mais vous le comprenez bien. Vous trouveriez ridicule que le pasteur de votre assemblée passe des heures à faire du sport pour un petit peu améliorer son look et qu'il n'est pas capable. Vous diriez « Mais monsieur, vous êtes en danger ». Vous ne le diriez pas? Vous n'oseriez pas? Peut-être vous oseriez, peut-être vous n'oseriez pas. Qu'importe. Mais en tous les cas, Dieu sait qu'une occupation, si saine soit-elle, peut m'empêcher, et il y en a qui, je le dis depuis des années, mais le problème, c'est que vous ne savez pas une chose, c'est que chaque fois que Dieu vous parle et que vous n'en tenez pas compte, votre cœur s'endurcit. Et ça, le diable, il le sait. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante, si je me tais, j'apprendrai à écouter. C'est une affaire qu'il faut que je règle ce matin. En prenant le pain et le vin, il n'est pas possible, parce que si vous avez des occupations qui vous empêchent de vous tenir devant Dieu, je crois pouvoir vous dire que vous n'êtes pas prêt. Je vous le dis franchement, je devrais rendre compte. Et j'ai envie que ça se passe bien. Oui, combien de gens ne voient plus les pièges du diable? Dans l'église, là où on a lu que Jésus se tient à la porte, lorsqu'il parle à cette église, il lui dit, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ils étaient à fond dans l'activisme, ces croyants, ils faisaient tout un tas de trucs pour Dieu, c'était certainement très bien. Mais ils en avaient oublié la communion avec Dieu. Et c'est vrai qu'on peut servir Dieu et ne pas avoir de communion avec lui. C'est un truc de fou, ça. On sert Dieu et on ne le connaît pas. On fait des œuvres et on ne le connaît pas. Et Jésus dit à cette église, écoute, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureuse, aveugle et nue. Et il dit à cette église qu'il va les vomir de sa bouche. Vous savez ce que ça veut dire? Et je crois qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ces choses. Ce n'est pas un discours politique pour une association culturelle de l'Église. Ce n'est pas un discours pour améliorer, pour faire une friperie dans l'Église. Tiens, on va faire du social. C'est archi intéressant. Non, c'est le salut de votre âme. Vous entendez? C'est votre éternité ce matin qu'on est en train de partager. Quelqu'un qui est malade et qui se sent gravement atteint, il va voir le docteur, il va voir un spécialiste. Il n'est pas content, il va en voir un autre. Il a raison, son corps le préoccupe. Ça se comprend. Mais êtes-vous autant préoccupé par le salut de votre âme ou prenez-vous ces choses à la légère? Dieu devra-t-il vous dire un jour, mais je t'ai pesé dans la balance, c'était comme Belshazzar. T'as été trouvé léger. Ils se sont égarés. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'égarent. Ils ne veillent pas sur leur âme. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Je vous ai dit dimanche matin que ceux qui se contentaient d'écouter la parole de Dieu le dimanche étaient en danger. Je n'exagère pas. Mais je vous pose la question, cette semaine, en avez-vous fait, y avez-vous fait attention? Vous êtes-vous dit, oh c'est vrai, moi qui lis la Bible, que le dimanche matin on culte, quand même, est-ce que vous l'avez pris au sérieux? Peut-être que vous ne l'avez pas pris au sérieux. C'est pas bien. Vous allez dire, c'est de la négligence. J'ai de la négligence, puis c'est les vacances. Jésus n'a pas dit des vierges folles, ouais, c'est de la négligence. J'ai oublié. L'oubli, c'est pas méchant, j'ai oublié. La Bible, Jésus l'a dit que l'oubli des choses spirituelles, c'est de la folie. C'est pour ça qu'il a appelé ces vierges les vierges folles. C'est de la folie que de ne pas s'appliquer à remplir le réservoir spirituel de son âme. C'est une folie. Et moi, je voudrais que ce moment de bénédiction, de guérison, de restauration, pour que cette rentrée qui arrive soit l'occasion de vivre de nouvelles choses avec Dieu. Vous n'avez pas envie de vivre de nouvelles choses avec le Seigneur? Moi, j'ai envie. Pas pour l'expérience, mais ce qui correspond à la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas des expériences pour faire des expériences, ça ne tient pas debout. Mais on peut croire que Dieu a des œuvres préparées à l'avance, oui, et qu'on peut y rentrer. Moi, je n'ai pas envie un jour que Dieu me dise, mais tu vois, tu me servais, mais tu ne savais pas que tu étais un aveugle. Mais non, je ne veux pas. Du mauvais côté de la porte, écoutez bien, il y a tous ceux qui sont croyants, mais qui se contentent juste de croire en Dieu. Crois en Dieu? Oui, mais je crois en Dieu. Et la preuve, je suis là. Mais il n'y a pas de piété. Je reviens souvent parce que je suis étonné. Il y a quelque temps de ça, il y a des jeunes qui m'ont dit, « Monsieur Go, on sait que vous faites des séminaires. On aimerait que vous nous fassiez un séminaire sur la louange. » Je dis, « Écoutez, moi, ce n'est pas le truc qui m'accroche le plus. Je vous propose un séminaire sur la piété. » Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, « Qu'est-ce que c'est la piété ?» J'ai dit, « Vous en avez vraiment besoin. » Des responsables d'église, tenez-vous bien, des responsables d'église. C'est ce qui va arriver dans le beaucoup. Il va y avoir tous les croyants qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas de piété personnelle. Et Dieu, écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est quelque chose, vous contentez d'une piété de façade. Je comprends que vous ayez pris cette décision, mais Dieu, il ne veut pas de piété de façade. Dieu, il veut une piété réelle, profonde. Beaucoup de gens, je vous assure, beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils n'ont pas de piété. Ils font exactement leurs quatre volontés. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils croient, je le sais, mes entretiens depuis 28 ans commencent à me l'expliquer. Ils croient, mais ils n'ont aucun respect pour les choses de Dieu. Ils vont se mettre même à blaguer. Ils sont capables de faire une blague à deux balles sur les choses de la Bible. Moi, je crois que quelqu'un qui a une vraie piété, il ne rit pas avec les choses de Dieu. On peut rire avec plein de choses parce que je crois qu'il y a un temps pour rire et je crois que c'est bien de rire. Moi, j'aime me faire rire ma femme. Ouais, j'aime la faire rire. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle rit pour me faire plaisir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un temps pour rire? Mes frères et sœurs, on ne rit pas avec la parole de Dieu. On ne rit pas, ça commence avec des bêtises. Vous voyez, comme l'autre jour, j'étais dans une réunion où c'était même des serviteurs. Et vous voyez, il y en a un qui a dit, lève-toi et marche, faisant allusion à une parole de Jésus. Vous savez, quand il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Est-ce que vous, franchement, on rit avec ça? Moi, il me semble que c'est ridicule. C'est ridicule. Et ça exprime un début de non-piété, de légèreté. Je répète, il y a un temps pour rire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais les beaucoup de chrétiens qui sont du mauvais de côté de la porte, je le résume, bien sûr, je n'ai pas le temps de tout expliquer. C'est un peu ça. Dieu de son côté et moi du mien. Ça se passera comme ça. Ça ira très bien. Dieu s'occupe de ses affaires. Moi, je m'occupe des miennes. Je veux bien aller à l'église tous les dimanches, c'est intéressant. On y entend de bons messages, c'est bien. Mais ça s'arrête là. Attention. Je crois en Dieu, je crois à ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a à me dire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Est-ce que ce que Dieu a à vous dire... Répondez-vous, est important. Est-ce que vous êtes en train de dire, en écoutant cette méditation, « Oui, Seigneur, ce que tu as à me dire, que ce soit plein de bonté ou plein de sévérité, ça m'est égal, mais je veux l'entendre. » Est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous dites « Oui, oui, Seigneur, parle-moi. » Je l'ai chanté, mais je sens bien que ça ne va pas plus loin que ça. Oui, beaucoup de gens croient en Dieu, parlez-leur du Créateur, mais ils vont vous faire un truc extraordinaire sur la création, et il y a sujet à matière. Prenez n'importe quel animal, et vous verrez qu'il faut le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Le faire en plastique, c'est déjà bien, mais en faire un vrai qui marche et qui chante, moi je trouve qu'il fallait le faire. Vous ne trouvez pas? Vous avez de quoi exprimer la grandeur de Dieu. Mais il y a des gens, ça s'arrête là. Alors on a l'impression que, bien sûr, à cause de leur connaissance sur la création, à cause de la connaissance sur certaines choses de Dieu, ils sont pieux. Non. La piété, c'est sérieux. Dieu veut une véritable piété. La sainteté de Dieu. Nous avons entendu dans la prophétie que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça ne peut pas être plus clair. Nul, nul. Nos enfants ne verront pas Dieu. Nous, les pasteurs ne verront pas Dieu. Ça ne change rien au programme. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est ce qui fait la force de la piété. Parfois, on me dit, mais c'est quoi la piété? Parce que la Bible dit qu'ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est une véritable repentance et une véritable sainteté. Et nous devons dire, mais c'est vrai, je ne peux pas m'autoriser. Vous vous rendez compte? Le drame, mes frères et sœurs, beaucoup de gens seront du mauvais côté, ils frapperont, bien sûr, c'est une image, ils ne vont pas aller taper à une porte ou à un temple. Mais c'est l'image que le ciel leur sera fermé, alors qu'il est grand ouvert. Et je voudrais conclure tout à l'heure avec cette merveilleuse invitation qui tient toujours debout. La porte est ouverte, frères et sœurs. Que son nom soit béni. Un Dieu qui bénit, oui. Ah, un Dieu qui bénit, ça m'intéresse. Seigneur, bénis-moi. D'ailleurs, des fois, on entend des gens, c'est... Alors là, que Dieu me garde de juger, parce que c'est vraiment pas intelligent. Mais lorsque c'est Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis mes affaires, Seigneur bénis mon boulot, Seigneur bénis ma famille, Seigneur bénis-moi, bénis... Si c'est que ça la communion avec Dieu, moi je trouve que c'est léger quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Un Dieu qui bénit, ah il y en a qui en veulent bien. Mais un Dieu qui dirige ma vie, non. Si Dieu vous demande quelque chose, si Dieu me demande quelque chose, si Dieu me dit l'an prochain, ben Gérard tu t'en vas de Toulouse, tu vas là-bas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra obéir. Un Dieu qui bénit, moi j'en veux bien. Un Dieu qui dirige, ça ne me préoccupe pas beaucoup. Beaucoup en sont là. Une totale indifférence. Qu'est-ce que vous diriez si votre femme vous était indifférente? Imaginez-vous, vous lui parlez, tu sais, j'aimerais te dire ce que j'ai vécu. Ben, moi, je m'en fiche ce que tu as vécu. Il y a des gens, ils ont les mêmes relations avec Dieu. Ils s'en fichent pas mal de ce que Dieu a à dire. On serait blessé si notre épouse, si notre femme, notre conjoint était indifférent à ce que l'on vit, à ce que l'on a fait, à ce qui nous intéresse. Ça nous blesserait. Beaucoup ont la même relation avec Dieu. Je voudrais relire avec vous un verset, je pense qu'on l'a lu la semaine dernière, mais ça fait rien. Il faut le relire. Dans 1 Pierre au chapitre 4, le Seigneur parle que le juste se sauve avec peine. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là que le juste, c'est le chrétien qui obéit à Dieu. Voilà la vraie piété. Ce n'est pas un croyant qui est pentecôtiste ou protestant ou j'en sais rien. Ce n'est pas la dénomination qui détermine la piété, laissez-moi vous le dire. La Bible parle du juste. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Il y a une espèce de chronologie là du jugement. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ce n'est pas le jugement dans le sens de condamnation. Le jugement a sept mots dans le grec. Et il y a le mot de rendre des comptes. L'Église ne sera pas condamnée. Il y a des chrétiens, les chrétiens devront rendre des comptes. Vous le savez? Oui. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence... » Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Vous voyez, il n'est pas dit ceux qui croient. De ceux qui n'obéissent pas. Et si le juste se sauve avec peine, parce qu'il y a un travail, il y a un effort à faire. Travailler à son salut, avec les ruses du diable, vous comprenez bien qu'il y a des efforts à faire. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Bon, le pécheur, c'est le gars qui n'a jamais vu accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il est pécheur, il n'en veut pas. Mais l'impie, c'est celui qui croit en Dieu, mais qui n'a pas de piété. Impiété. Le juste, c'est le chrétien qui force, il est là ce matin, il y en a, et j'espère la plus grande majorité de véritables justes. Vous êtes ici vraiment pour adorer Dieu, vous êtes ici vraiment pour la parole de Dieu, pour la Sainte Cène, pour la communion fraternelle, c'est bien. Et j'espère que l'Église sera de plus en plus remplie de véritables justes, malgré nos faiblesses et nos manquements. L'impie, il sera au même endroit que le pécheur, dehors. Que deviendront l'impie et le pécheur? C'est une question. Vous savez, j'ai souvent exprimé le fait que Dieu pose beaucoup de questions, c'est pour qu'on y réponde. Ce n'est pas des questions pour nous embarrasser. Le Seigneur, il n'est pas comme nous. Des fois, vous savez, on est capable de piéger les gens avec des questions, la manipulation, que c'est triste. Quand Dieu pose une question, elle est intelligente. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez Dieu en train de prendre quelqu'un dans un coin et dire alors, hein? Quand il le fait, c'est pour nous rappeler si on l'aime, comme à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas pour nous démolir. C'est pour nous restaurer. Cette prédication, elle n'est pas pour faire du mal. J'espère que tout le monde le comprend. C'est pour faire du bien. Et dire, mais c'est clair, j'entends une prédication le dimanche, mais j'entends plus la voix de Dieu. Et ça, il faut le régler. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'impie, le croyant, qui n'a pas de piété. Dans Romains 1,18, on peut le lire. On a fait déjà pas mal de lectures, mais ça ne fait rien. C'est parce que c'est pour vous faire prendre conscience que ces choses ont été écrites, hein, pour que vraiment nous nous appliquions. Ça vous réencourage à lire la Bible peut-être plus lentement, plus doucement. Romains chapitre 1, verset 18. Dans un contexte où l'apôtre Paul parle de l'église de la ville de Rome, qui à l'époque était une ville abominable, remplie d'homosexualité, remplie de perversité. Quand je vois qu'aujourd'hui on accepte tout ça, même dans les églises, on l'accepte. Vous savez qu'à Paris, il y a une église qui s'appelle l'église de la libération. C'est beau, mais on ne vous libère pas du péché. On vous libère de la culpabilité du péché. C'est-à-dire que si vous êtes dans le péché, on vous explique que Dieu vous aime tel que vous êtes. Ça, c'est vrai. Et que vous pouvez rester dans votre homosexualité, dans votre perversité, Dieu va vous délivrer de la culpabilité. Romains 18. La colère de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, vous croyez à l'amour de Dieu? Vous savez, rien que de voir cette table blanche vous rappellera toujours l'amour de Dieu. Quelqu'un qui dira, moi je ne crois plus à l'amour de Dieu, en voyant rien que le fait qu'il y a des symboles sous un drap, rien que ça, moi ça me rappelle. Chaque fois que je vois ça, je dis, Seigneur, tu as dû nous aimer pour faire ça. C'est pas vrai? Oui, Dieu est amour. Mais Dieu est juste et saint. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça aussi, quand les pasteurs ne disent pas aux gens qu'il faut se repentir, qu'il faut se convertir, ils retiennent la vérité. Et je peux vous assurer que ça ne se passera pas très bien pour eux, croyez-moi. La colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété. Vous savez, quand Dieu il regarde ce matin, est-ce que Dieu vous regarde votre cœur? Ouais. Qu'est-ce qu'il voit? Ce matin, Dieu, il voit mon cœur? Il voit votre cœur? Qu'est-ce qu'il voit? Il sait, lui, on ne peut pas le tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On ne peut pas le tromper. Quand Dieu regarde un cœur, il doit se dire, celui-là, il a juste une croyance intellectuelle. Il y a des gens comme ça, ils ont juste une croyance intellectuelle. Mais dès que vous parlez de certains sujets pieux, ça les énerve. Je suis bien placé. Dieu l'a dit une fois, quelqu'un l'a dit, la prophétie l'a dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que Dieu qui a vu comment j'ai chanté tout à l'heure, comment nous avons chanté, etc. Que deviendront les gens sans piété? Que deviendront les croyants sans piété? Moi, je vous le dis, devant Dieu, parce que je rendrai compte pour ça. La porte sera fermée. Et c'est pour ça que, quelle grâce aujourd'hui de nous retrouver sous le regard de Dieu. Nous savons que la porte est ouverte. C'est comme quand Noé encore martelait ses clous et ses planches dans l'arche, chaque coup de marteau. Chaque coup de marteau, c'est bien l'image. Chaque coup de marteau, parce que les voisins, peut-être, ils en avaient marre. Mais chaque coup de marteau, rappelez deux choses. C'est que Dieu les aime, puisqu'il voulait sauver, et que le jugement va venir. Oui ou non? Chaque coup de marteau, Dieu veut sauver les hommes. Chaque coup de marteau, le déluge va venir. Chaque prédication, c'est pareil. Dieu veut vous sauver, mais la colère de Dieu va venir. Ça va comme ça? Est-ce que ça tient debout? Mais oui, ça tient debout. C'est la vérité. Tous ceux qui seront du côté de la porte, du mauvais côté, ce sont ceux qui pensent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu pardonne tout. Est-ce que Dieu pardonne tout? Oui. Mais comme Dieu est plein d'amour, c'est pas grave si on vit dans le péché et ils prennent en plus des versets bibliques qui leur, en partie, tout est permis. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Et on s'autorise à prendre certains textes bibliques pour justifier la pratique du péché. Ah, moi, je couche avec une jeune fille, je ne suis pas encore marié, c'est pas grave. On va finir par se marier, c'est pas grave. C'est pas grave, arrêtez avec votre légalisme. Demandez à Dieu si c'est du légalisme. Vous aurez la réponse. Le légalisme, ce n'est pas ça. Le légalisme, c'est quand on demande par exemple à quelqu'un qui n'est pas encore converti de faire certaines choses, alors qu'il ne peut pas les faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous dites à un inconverti, il te fera arrêter de fumer, c'est ridicule. C'est ridicule, mais quand il sera converti, croyez-moi, il arrêtera de fumer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on tue les gens avant qu'ils ne naissent. Je crois que c'est une abomination, ça, de demander à des gens qui ne sont pas encore convertis de se comporter comme des croyants. C'est pour ça, faites attention. Faisons attention avec nos enfants qui ne sont pas encore convertis. N'en faisons pas des hypocrites, hein, en leur demandant de se comporter toujours comme des chrétiens par rapport aux autres. Tant qu'un enfant n'est pas converti, il n'est pas converti. Il ne faut pas faire du cinéma. Vous comprenez, je veux dire. Des fois, vous savez, on a tellement le souci que nos enfants se tiennent bien, se tiennent à carreau, etc. Oui, il faut leur donner une très bonne éducation et faire en sorte qu'ils se tiennent toujours bien dans les lieux publics et à la maison. Mais ne leur demandons pas de se comporter comme des chrétiens s'ils ne sont pas encore convertis. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ça, c'est le légalisme. Ça, c'en est. Oui, nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui pardonne. Et pour moi, la prédication de ce matin, c'est plus une prédication sur l'amour de Dieu que sur la sévérité de Dieu. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez. Mais voilà, nous avons de plus en plus dans les églises, c'est l'apostasie, c'est en train de rentrer. Vous savez, il y a quand même des prophéties dans les Thessaloniciens qui nous enseignent que le diable, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Ce qui veut dire que l'ennemi prendra de plus en plus de place par, j'appelle ça le syncrétisme religieux, c'est-à-dire qu'on veut mettre toutes les religions ensemble pour faire plaisir à tout le monde. Mais je peux vous dire que Jésus, il est évincé de la scène, croyez-moi. Il y a un peu de christianisme, mais un surtout sans Jésus. Ça paraît complètement débile. Un christianisme, mais sans le Christ. C'est ça l'apostasie. Je parlais à l'introduction des pasteurs qui passent surtout pour garder les gens, de peur qu'ils ne partent. Si un chrétien part, hein, ça va faire une dîme du moins, ça risque de jouer sur... Écoutez, que c'est triste. Que c'est triste. C'est ce qui se passait du temps d'Ézéchiel. Dieu n'est pas intéressé par votre argent. Dieu est intéressé par votre âme. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais on ne peut pas faire ce que le monde fait. Et il y a des chrétiens, mais oui, mais on peut faire tout ce que le monde fait. Après tout, on est libre. Oui, il y a des choses qui sont saines, on peut les faire. On peut être ami du monde. Non, la Bible dit que celui qui se rend ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Bien sûr, on est dans le monde et il faut travailler avec les gens du monde. Et il ne faut pas être énervé parce qu'on travaille qu'avec des païens. Dieu vous y a placé. Considérez même ça comme une grâce. Et même s'ils se moquent de vous, acceptez-le. Vous êtes dans le monde. Vous travaillerez avec des gens qui se moqueront de vous. Vous êtes dans le monde. Vous avez le droit de faire certaines choses dans le monde qui sont saines. Ce n'est pas la peine d'argumenter. Vous le savez mieux que les païens le comprennent, ça. Mais ce n'est pas parce que certaines choses sont écrites qu'il faut les interpréter n'importe comment. Parce que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et puis on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est ça les chrétiens qui crieront, ouvre-nous, ouvre-nous. Ce sont tous les chrétiens qui croient, qui pensent que l'on peut être chrétien sans vivre dans la sanctification. C'est exactement ça. Du mauvais côté de la porte, il y aura tous les croyants qui s'imaginent qu'on peut être chrétien, faire ce que l'on veut, se dispenser de sanctification, etc., etc. Le Seigneur a dit, vous savez, à l'invitation, un des sept textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, vous savez, c'est la parabole du festin des noces. Le Seigneur invite, il invite tout le monde, les bons, les méchants, tout. Dieu invite tout le monde. Et bien sûr, tout le monde s'excuse. On n'a pas le temps, le Seigneur, quelle perte de temps. Et puis, au jour des noces, se trouve un gars qui a accepté l'invitation. Il a accepté l'invitation. Mais il est surpris de ne pas avoir été revêtu d'un habit de noces. Et le maître lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu sois venu sans habit de noces? Et le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui parle. Liez-le, jetez-le dans les ténèbres. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements. Voilà. Le gars, c'est l'image, c'est une image. Parce qu'un habit de noces, c'est... Mais l'habit de la sainteté, l'habit de la croix, l'habit de l'obéissance, c'est un habit qui ne plaît pas trop. On préfère notre habit à nous. Et il y a des gens, ils entrent dans le royaume de Dieu sans passer par la sainteté. Ils ne veulent pas de sanctification. Ils acceptent l'invitation, ils se repentent et ils obtiennent le pardon des péchés, mais ils ne veulent pas se convertir. Et c'est pour ça qu'on a au milieu de nous-mêmes des gens qui ne sont pas convertis. Moi, ça me brise le cœur quand je dis à quelqu'un, mais vous n'êtes pas convertis. Ils ont accepté l'invitation, ils ont accepté la croix, mais la croix, l'œuvre de la croix, mais ils n'ont pas accepté de la porter à leur tour. Ils se repentent, mais ils ne se convertissent pas. Et ça donne une image très très molle de l'œuvre de Dieu. Pensez donc. Voilà ceux qui seront du mauvais côté. Je crois, mais la sanctification, ce n'est pas trop mon truc. Et Dieu cherche des gens qui disent, voilà, Dieu l'a dit, c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit? Ouais, ça c'est écrit, mais attendez. Ça a 2000 ans, monsieur Gaud. Prophète Osée, ça a été écrit il y a 2700 ans. Attendez, on est au 20e siècle. Moi, je bénis Dieu que ça soit là. Béni soit le Seigneur. Je termine avec deux pensées. La première, c'est celle du fait que du mauvais côté de la porte se trouveront tous ceux qui entendent la prédication chaque dimanche, comme ce matin. Autant les chrétiens qui sont du mauvais côté que les pécheurs qui ne veulent pas se convertir et qui continuellement attendent. Ils attendent. Moi, je veux vivre ma vie. J'attends un peu, je vais me marier, puis après je me convertirai après. Il y en a qui le font, ça. J'attends pour me convertir. J'attends d'avoir un peu vécu le monde. Moi, j'ai envie de vivre. Je ne sais pas si vous avez vécu dans le monde. Moi, je me suis converti à 22 ans. Mais moi, je trouve que la vie que j'ai vécue jusqu'à 22 ans, ce n'est pas la vraie vie, je vous le dis. C'est pour vous dire l'aveuglement qu'il y a. Et il y a un texte dans les Thessaloniciens qui parle de ces gens. Et il dit, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verdict est grave. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça fait que quand l'occasion se présentera ou se présenterait, ils seront aveuglés. Et ils ne croiront plus au pardon, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et ça, c'est une affaire. On pourrait faire d'ailleurs toute une étude là-dessus. Qu'est-ce que l'amour de la vérité? Tous ceux qui, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et pour les autres, oui. Ah, ça, c'était bien pour monsieur Untel. Ah, j'espère qu'il est là, d'ailleurs, ce matin. Ah, si ma belle-mère pouvait être là ce matin, qu'est-ce que ça y ferait du bien? C'est sûr que ça fait du bien à tout le monde. Mais quand on commence à penser que la prédication, c'est pour les autres, il y a un truc qui ne va pas. Oui, du mauvais côté de la porte, il y aura les lâches. J'ai dû dire dernièrement, il y a 3 ou 4 ans de ça, un monsieur qui m'appelle une fois par semaine. Il ne vient jamais, mais il m'appelle une fois par semaine. Il m'envoie de l'argent pour l'église, tout ça. Alors j'ai dit, c'est bien, mais voyez, il sera. J'ai dit, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il m'a dit un jour, parce que je le reprenais au téléphone, il me dit, monsieur Gaud, c'est le truc, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que vous pensez de moi? J'ai dit, je voulais que je vous dise ce que vraiment je pense. Depuis les années, il me réveille un peu souvent. Depuis les années, vous faites partie des lâches. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, c'est écrit, j'ai pas, c'est pas ce que moi je pensais, en fin de compte, je ne pense pas que c'était moi qui pensais ça, parce qu'en plus, je m'y attache à ce gars, on s'y attache aux gens malgré tout, vous savez? Et vraiment, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de ceux qui seront de l'autre côté de la porte. Je vais essayer à la rentrée, je vous avais dit que je le ferai l'an dernier, mais ça va me prendre beaucoup de temps, parce que je veux le faire d'une manière très 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 utile. Je voudrais faire toute une étude sur l'Apocalypse, parce qu'il me semble que s'il y a bien des chrétiens qui devaient comprendre l'Apocalypse, c'est ceux qui vont la vivre, vous croyez pas? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 8, il est parlé de ceux qui vont être du mauvais côté. Au-dessus, il y a celui qui vaincra, qui héritera, etc. Bon, ça, c'est le grand top niveau, c'est la grande bénédiction. Mais hélas, il y a l'autre revers, Apocalypse 21, 8. Et j'ai dit à cet homme, mais lisez avec moi. Si vous avez une Bible, lisez. Et j'ai dit, voilà, vous m'avez demandé ce que je pense. Voilà. Mais pour les lâches, ce sont ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas. Ils sont là, d'ailleurs, vous rappelez, Élie, quand il dit, mais jusqu'à quand marcherez-vous des deux côtés? Il y a un moment donné, il faut se décider. On va prendre la Sainte-Seine, c'est certainement le meilleur moment de la semaine pour sortir peut-être de cette lâcheté, de cette paresse, comme disait la prophétie. Parce qu'un des textes où il y a les pleurs et les grincements dedans est attribué à la paresse. Et nous, bien sûr, nous, on est cool avec la paresse. Au coup, bon, paresseux, bon, c'est pas méchant, hein. c'est pas un brigand, il a tué personne. Mais c'est pas ce que Dieu dit. La paresse, c'est une tare, la paresse. C'est une vraie tare. Et il faut le régler. Pour les lâches. Et cet homme, il n'était pas content, il s'est mis en colère et tout. Mais j'ai dit, vous m'avez demandé. Vous n'arrivez pas à vous décider pour Dieu. La lâcheté, c'est ça. Mais non, je ne suis pas un lâche. Mais si, vous ne voulez pas vous convertir. Vous aimez vos ténèbres. Non, ce n'est pas vrai. Au téléphone, c'est très intéressant. Mais est-ce que ce n'était pas mon devoir de le lui dire? Est-ce que ce n'était pas ma responsabilité de lui dire, mais décidez-vous, repentez-vous, convertissez-vous. C'était de mon devoir quand on est, vous, si vous avez des enfants, vous le savez, qu'on est parfois obligé d'être sévère avec eux. Combien de fois on a été sévère et même ça nous faisait mal au cœur. Mais on l'a fait parce qu'on les aimait. Et Dieu, il est sévère, c'est écrit, considère la bonté de Dieu, considère la sévérité de Dieu. Mais la sévérité de Dieu, pour moi, elle est plus grande que son amour encore. Parce qu'elle nous prouve combien il nous veut à lui. Et la deuxième pensée avec laquelle je veux conclure, c'est cette merveilleuse invitation. Jésus dit, efforcez-vous. Il parcourait les villes et les villages. Ça veut dire que Dieu veut partout que les gens soient sauvés. Il y en a qui acceptaient, il y en a qui refusaient. Bien sûr, il y en avait peu, parce que le gars, il pose la question, comment ça se fait qu'il y en a peu qui soient sauvés? Ça n'a pas beaucoup changé. Efforcez-vous. Jésus aurait pu dire, écoutez, le moment est tellement solennel, quand la porte va être fermée, je vais les forcer. Est-ce que il aurait pu? Non. Moi, je ne sais pas, moi j'aurais écrit le texte, j'aurais dit, mais moi, je vais les obliger. Non. Jésus dit, efforcez-vous. Vous savez, quand les anges ont choisi de se désolidariser de Dieu et de choisir Lucifer, le Seigneur les a laissés. Dieu respecte le libre arbitre de toutes les créatures, créées ou procréées. Dieu respecte notre libre arbitre. Et la prédication est l'escalier, elle est sérieuse, parce que c'est l'éternité de chacun d'entre nous qui est concerné, et par projection l'éternité des autres. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre tout cela en considération et de dire, mais je ne fais pas d'efforts. Quels sont les efforts que je fais pour être du bon côté? Oui, la porte est là, est étroite, le chemin est étroit. Mais ça ne vaut pas la peine d'être sur un chemin plein de lumière plutôt que sur un grand sentier plein de ténèbres. Qu'est-ce que vous préférez? Un petit chemin plein de lumière, de grâce, de paix, de bénédiction, même s'il faut se caler tout le temps? Ou est-ce que vous préférez un chemin large et spacieux et plein de misère? Quand on n'a pas compris ça, c'est qu'on est aveuglé. L'invitation, elle tient toujours. Efforcez-vous. Le voulez-vous? J'ai voulu vous rassembler, vous ne l'avez pas voulu. Vous avez vu la conclusion? Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est un truc de fou. C'est la preuve que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Et si Dieu a créé l'enfer, vous explique. Laissez-moi vous convaincre que c'est juste. Que personne n'ose dire un jour, Dieu est injuste. Ça ira mal. Pour vous. Vous croyez que Dieu est intrinsèquement juste? Vous croyez que si Dieu a créé l'enfer, il y a une bonne raison? Alors soyons sérieux. Oui, efforcez-vous. La bonne nouvelle, c'est que la porte est ouverte. Vous pouvez dire merci. La porte est ouverte. Ce matin, je peux re-rentrer. Je peux revenir. Vous avez vu comment Jésus est mort, les bras grands ouverts. C'est pas beau, ça? Ils sont toujours ouverts, les bras du Seigneur. Ils sont toujours ouverts. Pour que ce matin, tous qui entendons, qui entendraient par le biais d'Internet cette prédication, vous puissiez là, dans votre voiture, peut-être vous arrêter sur un parking et demander pardon à Dieu. C'est plus important peut-être qu'autre chose. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se recueille quelques instants? L'invitation, elle est pour tous. Tous. Croyez-moi. Tous. Dieu ne vous forcera pas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ma responsabilité s'arrête là maintenant. C'est à vous de vous forcer. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît. Vous pouvez choisir des frères pour la Sainte-Seine. Restons dans ce... Répondons, répondez, réagissons. Soyons sérieux, tous, qui êtes-vous? Les bons, les méchants, les religieux, les laïcs, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les ratés, ceux qui ont réussi, ou les blasphémateurs, les enfants qui sont là ce matin, les ados qui êtes ici. Donnez votre cœur au Seigneur. Y aurait-il une autorité parmi nous, ou un clochard? Qu'importe, c'est votre âme qui est importante. Ce n'est pas votre titre ou votre argent. Votre position, ce n'est pas important. C'est votre âme qui est importante. Nous sommes sous le regard de Dieu. Jésus va bientôt revenir. Cette porte, elle va se fermer. C'est certain. Vous croyez que le Seigneur, il blaguait ce jour-là? La porte, elle va se fermer. De quel côté êtes-vous? Sérieusement. Est-ce que c'est possible de rester là, recueilli, vraiment dire, mais Seigneur, mais c'est clair, de quel côté je suis? Dans quel cas de figure suis-je? Vous, mes frères, mes sœurs, qui ne lisez plus votre Bible, êtes-vous sûr que vous êtes à l'intérieur? Vous qui méprisez la parole. Vous qui dites tout le temps, oui, mais il faut relativiser, oui. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est pas à nous de juger la Bible. C'est à la Bible à nous juger. Que ce soit bien clair. La piété, c'est ça. S'autoriser à juger la Bible est une grande preuve de légèreté. C'est la Bible qui est capable de nous juger. Quelle occasion merveilleuse. Vous trouvez pas, mes frères et sœurs? Quel bonheur. La porte est ouverte. Les bras sont ouverts. Le regard de Dieu bienveillant. Ce matin, il te dit, viens mon fils, reviens ma fille. Reviens, oui, la porte est étroite, mais le chemin est lumineux. Je suis à côté de toi. Vous, les adolescents qui êtes là, bientôt vous serez à l'école du dimanche pendant le culte, ne voulez-vous pas vous convertir, vous repentir? Peut-être que vous êtes braqués parce que nous, les parents, nous n'avons pas toujours eu la meilleure attitude, on vous a peut-être peiné, vous avez tout rejeté. Mais serait-ce valable pour votre éternité, cela? Seigneur, il vous aime, frères et sœurs. Combien dans mon esprit en ce moment, je ressens l'amour de Dieu qui vous tend la main. Si vous saviez, bien sûr qu'on ne voit pas dans l'invisible, si vous saviez combien le regard de Jésus sur vous est plein de compassion et de tendresse. Il vous tend cette main qui est là, percée, avec cette cicatrice dans sa main. Il vous tend la main et dit, viens, viens. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens, non pas une religion de plus. C'est pas, on ne vous présente pas la religion évangélique, ça aussi, ça c'est vraiment quelque chose que Dieu approuve pas. On vous parle de Jésus, crucifié, ressuscité, glorifié, qui revient. Alors vous qui vous lèverez pour prendre le pain et le vin, soyez dans la victoire. Vous qui resterez assis parce que vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'êtes pas encore engagé, soyez aussi dans la victoire et prenez la victoire. Seigneur, je me repens et je me convertis. Je reconnais ma piété superficielle, ma piété à moi, celle que moi je me fais comme au restaurant, à la carte. Et je te demande pardon. Oui, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Levez-vous, frères et sœurs qui êtes baptisés. Levez-vous avec joie. La porte est ouverte. Vous qui êtes en train de vous repentir, levez-vous avec joie. Vous, les frères, les sœurs qui êtes en train de reprendre la victoire. Oui, ma lampe, je la remplirai. Voilà ce que je ferai. Je serai prêt, je serai prête quand Jésus reviendra. Merci Seigneur pour ce moment, que ce moment de scène soit un moyen de véritablement retrouver cette victoire. Tu as dit des hommes qu'ils vaincraient, s'ils gardaient ta parole, ils seraient des vainqueurs. Eh bien, c'est ce que nous voulons, Seigneur, garder ta parole. De tout notre cœur, que ton nom soit béni.